VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Violence en République centrafricaine. Amnesty International demande à l'ONU de mener une enquête approfondie sur l'attitude de ses troupes en RCA lors d'une attaque menée mi-novembre par un groupe armé contre des civils à Lindao, dans le centre du pays, qui a fait jusqu'à 100 morts. Dans un communiqué, l'ONG de défense des droits de l'homme affirme que selon plusieurs témoins sur place, les soldats de la paix de l'ONU n'ont pas répondu à l'attaque du groupe armé et se sont au contraire retirés, abandonnant des milliers de civils sans protection dans le camp déplacé où ils résidaient. Amnesty réclame en conséquence une enquête immédiate et impartiale qui doit en particulier se concentrer sur le rôle des casques bleus de la MINUSCA, la mission de la paix de l'ONU en Centrafrique. Crise anglophone au Cameroun, les 289 personnes détenues pour des faits liés à la crise qui ont été graciées jeudi par le président Paul Biya seront libérées ce vendredi, a annoncé le ministre camerounais de la Défense, Joseph Betty Assomo. Le ministre de la Défense a précisé dans son communiqué que cette mesure, et je cite, concerne uniquement les personnes dont l'examen approfondi des dossiers devant les juridictions militaires et les dossiers d'enquête en cours ont fait ressortir des charges d'une amplitude de gravité relative. Fin de citation. La clémence présidentielle ne concerne pas les criminels, les assassins et les dangereux terroristes, ni les commanditaires et planificateurs de la crise sécuritaire en cours dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, a souligné le ministre de la Défense. Élection en RDC, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a dénoncé ce vendredi les violences commises à l'égard des candidats de l'opposition aux prochaines élections et appeler les autorités à faire respecter le droit à la liberté d'expression. Je suis très inquiète au sujet d'informations faisant état d'un usage excessif de la force, y compris des balles réelles, par les forces de sécurité contre des réunions de l'opposition, a dit Michel Bachelet dans un communiqué. Exemple de la recrudescence des tensions dans le pays avant le vote du 23 décembre, selon les observateurs. Pendant la campagne électorale, il y a eu des morts à Kindu, dans la province du Maniema, Lubumbashi au Katanga, Kalemi dans le Tanganyika et Mbujimayi au Kasai. Puis un dépôt de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a été incendié à Kinshasa, la capitale. Est-ce que les prochaines élections seront apaisées? Idriss Fala a recueilli l'avis de Trifon Kinkié Moulumba, un des 21 candidats à l'élection présidentielle.
Il y a d'abord effectivement ce mot apaisement qui est très souvent entendu. C'est qu'il y a des gros problèmes. Tout un décor est planté pour des élections chaotiques et il y a cette machine à voter que d'aucuns appellent machine à voler qui semble être programmée pour un plébiscite. Et quand on voit toutes ces foules qui se déversent derrière chacun des candidats, ces foules qui croient en ce processus, j'ai comme l'impression qu'au lendemain d'une annonce, on verrait effectivement ces foules se déverser dans nos rues sans qu'elles n'aient été appelées à se jeter dans la rue.
Les gens se mobilisent pour aller dans une manifestation, ça ne veut pas dire qu'ils vont se mobiliser pour aller voter pour quelqu'un.
Exact. Ce sont finalement les mêmes foules qui se déversent dans la rue pour aller voir, applaudir quelqu'un qui arrive. Quand on voit par exemple dans une ville comme Bukavu, après le départ de tel candidat, un autre arrive, ce sont toujours les mêmes foules. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est des foules de curiosité ou c'est des foules d'adoption?
Kinshasa est connu, c'est la capitale. Et Kinshasa, depuis l'époque de Mobutu, a tout le temps été une ville rebelle. Est-ce que c'est suffisant pour certains opposants de dire qu'on va gagner les élections?
Bon, Kinshasa, c'est quand même un stock d'électeurs important. Ça fait quand même le swing state du Congo, avec environ 5-6 millions d'électeurs.
Sur 40 millions d'électeurs, voilà. Quand même. Hein?
Absolument, mais on a une vingtaine de provinces, donc il ne faut pas... Rien que Kinshasa, vous avez 6-7 millions, vous avez le Katanga, vous avez le Nord Kivu, vous avez le Sud Kivu, vous avez le Bandundu, enfin le Kwilu. Voici les grosses provinces qui ont des stocks d'électeurs. qui sont des swing states, en effet. Et quand vous faites du 40-45% à Kinshasa, et vous faites pareil dans le Kivu, dans le Bandundu, il est clair que vous êtes élu.
Trifon Kinkié Moulumba, un des 21 candidats à l'élection présidentielle en RDC.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Politique en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié, président du principal parti d'opposition dans le pays, le PDCI, affirme avoir l'accord de l'ex-président Laurent Gbagbo pour une alliance en vue de l'élection présidentielle de 2020. C'est ce que M. Bédié a affirmé dans une interview sur France 24. Le PDCI était jusqu'au mois d'août l'allié du parti au pouvoir, le Rassemblement des Républicains RDR du président Alassane Ouattara. Mais l'alliance a volé en éclats. Henri Konan Bédié a également invité une autre figure de proue de la politique ivoirienne, le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, à rejoindre sa plateforme. La lutte contre les djihadistes au Sahel maintenant, dans l'ouest du Niger, selon les Nations Unies, quelques 52 000 personnes ont été forcées de se déplacer depuis janvier dans les régions de Tillabéri et Taroua. Cette zone frontalière du Mali est le théâtre de nombreuses incursions de groupes djihadistes, Nani Talani.
Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés indique être vivement préoccupé par la persistance de la violence dans les zones frontalières du Niger, jouxtant le Mali et le Burkina Faso, qui a forcé 52 000 Nigériens à fuir leur foyer au cours de cette seule année. Cette partie, appelée la zone rouge, est le théâtre d'effroyables violences de groupes armés qui tuent, enlèvent des civils, brûlent les écoles et pillent les maisons, les entreprises et le bétail. Ces menaces empêchent la distribution de l'aide à l'ensemble des personnes dans le besoin, regrette le HCR, qui dénonce une situation à la fois alarmante et extrêmement instable. En juillet et octobre, des corridors humanitaires négociés avec la force conjointe du G5 Sahel et les forces nigériennes avaient permis au Programme alimentaire mondial et à des ONG d'acheminer des vivres à plusieurs milliers de déplacés dans la zone rouge.
Relations États-Unis-Afrique, John Bolton, le conseiller de la Maison-Blanche en matière de sécurité nationale, a révélé jeudi la nouvelle stratégie de Washington pour le continent africain. Il a promis une utilisation plus rigoureuse de l'argent du contribuable américain et a annoncé une compétition aux allures de guerre froide avec les rivaux des États-Unis en Afrique. Les précisions de John Lindon.
John Bolton, hier à Washington, a déclaré que la Chine et la Russie étendent rapidement leur influence financière et politique à travers l'Afrique. Il a déploré pêle-mêle les pots de vin, des accords opaques, le recours chinois à la dette pour tenir les États africains en otage ou encore le pillage russe des ressources naturelles. Il a dénoncé les comportements prédateurs de Pékin et Moscou en Afrique qui, selon lui, pose une menace aux intérêts américains. Les États-Unis, qui font toujours de la lutte contre le terrorisme islamiste une de leurs priorités, veulent que les pays africains prennent en main leur propre sécurité. Il a plaidé pour rationaliser, revoir ou mettre fin aux missions de l'ONU qui ne favorisent pas une paix durable. Notre objectif est de résoudre les conflits, pas de les geler indéfiniment, a insisté l'ancien ambassadeur américain aux Nations Unies. Il a promis de passer au peigne fin l'aide économique à l'Afrique, car selon lui, des milliards et des milliards de dollars des contribuables américains n'ont pas toujours abouti aux résultats escomptés.
Pour terminer, conflit au Yémen, en Suède, le secrétaire général de l'ONU a annoncé hier à l'issue de consultations de paix un accord âprement négocié entre belligérants. Objectif, faire taire provisoirement les armes dans plusieurs régions dévastées du Yémen au bord de la famine. Irénée Herman-Umbo.
Un cessez-le-feu doit entrer en vigueur dans les prochains jours à Hodeïda, port de la mer Rouge, par où entre l'essentiel de l'aide au Yémen, pays le plus pauvre de la péninsule arabique et où sévit selon l'ONU la pire crise humanitaire du monde. Les forces gouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite sunnite et les combattants houthis appuyés par l'Iran chiite doivent se retirer de la ville. L'ONU jouera un rôle clé dans le contrôle du port, a précisé Antonio Guterres lors d'une cérémonie en présence des deux délégations. Quand observateurs de l'organisation pourraient être déployés dans la ville, le ministre yéménite des Affaires étrangères Khaled al-Yémani et le négociateur en chef des rebelles houthis Mohamed Abdel Salah ont échangé une poignée de main à forte symbolique à l'issue de la cérémonie. La ville de Taïz, ravagée par les combats, doit également être soulagée par l'ouverture des couloirs humanitaires.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.